Bonjour chers fidèles Didier FM, c'est Didier pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte et pour la suite de notre rencontre avec Samuel. Samuel qui précédemment nous a parlé de son parcours difficile de transidentité. Voilà Samuel, on te retrouve. Alors on t'avait quitté lorsque tu avais évoqué donc ta transition.
Oui.
Hein, voilà, c'est ça. Et donc c'est passé, tu l'as dit, par des médicaments.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des conséquences? Tout ça, comment on vit ça dans son corps, en fait?
Moi, ce qui a été le plus compliqué, ça a été les changements vraiment. Alors, jusqu'à. Il faut repasser, en fait, par l'adolescence, par la puberté. Et quand on a déjà commencé sa vingtaine. C'est un peu humiliant parce qu'il va y avoir tout le processus de la voix qui mue, de la redistribution des graisses, qui est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais c'est-à-dire qu'on va perdre du muscle et des endroits adipeux à certains endroits et pas d'autres. Donc en fait, il y a une espèce de moi, j'aime bien utiliser ces mots, peut-être qu'ils ne plairont pas à d'autres personnes trans parce que j'exprime vraiment seulement mon sentiment, mais il y a eu une sorte de mutation à ce moment-là. Mais qui était désiré et voulu, donc je l'ai accepté, je l'ai embrassé à ce moment-là, mais c'était, oui, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est très compliqué au départ quand les gens ne savent pas nous nommer, ne savent pas nous identifier, c'est peut-être moins douloureux pour soi que finalement le prix social que ça coûte d'être de ne pas être identifié comme homme ou femme, c'est quelque chose qui dure dans mon cas un an, quelque chose comme ça, et c'est une période de ma transition à laquelle je ne reviendrai pas, qui était vraiment c'est changer d'habits tous les 3 mois parce que plus rien ne nous va. C'est changer de paire de chaussures parce que on prend une pointure. Donc c'est plein de petites choses. Quand on a déjà des soucis avec son image, de voir notre corps aussi vite changer, c'est très perturbant au départ. Et après, je ne dirais pas que c'est un long fleuve tranquille parce qu'après, je paie aussi le prix d'avoir l'air plutôt peut-être des fois un peu féminin comme homme, et un homme qui est féminin c'est un homme homosexuel dans beaucoup d'esprits, et bon c'est le cas, je vais pas m'en cacher, mais c'est un autre prix à payer. On comprend qu'on va payer la misogynie et le sexisme différemment à travers un autre prisme qui est celui des masculinités qui sortent peut-être des marges en fait. Donc c'est une manière de réapprendre le monde et le monde social surtout. Donc oui, ça a été... moi, j'ai toujours peur, on pourrait se dire que c'est bon, je suis un homme dans la rue, c'est peut-être plus simple pour moi. Je me suis déjà refait embêter dans la rue, même maintenant, mais pour des boucles d'oreilles, pour du vernis à ongles, ça reste... quand même des choses qui persistent. On n'est jamais tiré d'affaire, et c'est pas parce que on transitionne vers un genre masculin qu'on est tiré d'affaire dans toutes les pics sociales qu'on peut se prendre. Et puis quelque chose dans lequel je suis encore, c'est la violence administrative, la violence des papiers. Quand ce sont encore des démarches qui sont assez compliquées, il faut passer soit par la mairie, soit par le tribunal. Le changement d'état civil est encore judiciarisé. Donc ça peut être, et c'est une démarche assez violente encore à faire. Ça implique des pharmacies qui ne veulent pas donner nos boîtes de médicaments, ça implique des regards de travers au bureau de vote, la non-possibilité de rentrer en boîte de nuit, enfin des choses vraiment très, très concrètes auxquelles on ne s'attend pas forcément, mais la violence administrative est peut-être celle que je subis encore le plus et qui s'effacera, je l'espère, quand les papiers changent, mais ça reste quand même des sacrés obstacles. Encore de trouver aussi, je pense, à trouver des soignants qui comprennent, qui vont avoir d'autres patients et patientes trans. Ça ne court pas les rues. On peut rester dans des errances médicales pendant très longtemps à cause de peurs fondées ou infondées. Ça peut être une expérience qui va être traumatisante avec quelqu'un du corps médical qui va nous empêcher de retourner voir des personnes qui pourraient nous soigner, mais parce que justement, ça a été, ça peut être des endroits où il peut exister beaucoup de transphobie et d'homophobie. Donc voilà, ça a été la découverte un peu de tout ça ensuite.
Ce soir, c'est il ou bien c'est elle. Façon, c'est du pareil au même. Des barésies ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Ce soir, c'est il ou bien c'est elle. Façon, c'est du pareil au même. Des barésies ou des poèmes. J'ai mille façons de dire je t'aime. Oh, ah. Regardez l'heure en cours de fête. Ça m'arrivait toujours avant. Si tous les soirs je le regrette, je change de tête comme de vêtements. Je veux goûter à toutes les saisons sans demander la permission. Je fais couler l'encre sur les cons sans jamais demander pardon. Ce soir c'est il ou bien c'est elle.
IDFM, 98FM.
Bon, nous sommes toujours bien sur IDFM. Nous retrouvons Samuel qui continue à nous parler de sa transition, qui lui a assuré cet équilibre et cet accord avec lui-même dont il avait toujours rêvé. Alors, et ton prénom alors, comment tu as choisi celui de Samuel?
Alors, quand j'avais 15 ans, j'étais assez fan d'un film qui s'appelle Her, de Spike Jonze, dans lequel... le personnage principal va tomber en amour avec son l'IA qui l'accompagne. Et à ce moment-là, pour moi, alors j'ai toujours beaucoup aimé les personnages de robots dans le fait de comment apparaît l'humanité dans des formes artificielles. Je pense à l'homme bicentenaire avec... quel est cet acteur avec Robin Williams. Incroyable film, et donc Her me fait un peu le même effet, et ce personnage là de l'intelligence artificielle dans ce film s'appelle Samantha, et je décide de le raccourcir pour Sam tout d'abord, parce que j'ai vraiment cette chose de me dire je veux être d'abord reconnu en tant que personnalité humaine, en tant que personne qui va expérimenter des choses avant d'être un corps, avant d'être une projection de « Ah ben je ressemble à ça, donc je vais forcément agir comme ça, ou je vais agir pour ne pas être différent. » Là, c'était « Ah mais en fait, je peux être une personnalité avant tout, dénuée de corps, ou avant tout être une personnalité, sans qu'on s'attarde... » sur un corps strictement physique. Je décide, quand je commence ma transition, d'acter un petit peu en me disant bah, « Non, en fait, même si tu aimes évoluer dans une certaine androgynie, une certaine non-binarité, ce qui te met le plus à l'aise, ce qui s'aligne le mieux avec ta personnalité, c'est un prénom strictement masculin. » Et en fait, je décide tout simplement de rajouter « UL » à la fin de Sam, parce que je trouvais que c'était un prénom assez léger, avec un son assez léger, et j'avais quand même envie d'avoir un prénom assez doux. Donc voilà, tout simplement.
Alors en même temps, si on fait un petit peu de psychanalyse, dans Samuel, il y a le mot mu, donc transformation. Non ?
Mais c'est vrai qu'on en avait parlé, et puis c'est vrai que je ne l'avais jamais... du tout vu comme ça, et puis on me l'avait jamais dit comme ça, mais ça peut être assez rigolo. C'est vrai que c'est une transition de genre que je fais, mais c'est une transition de vie en général, et c'est vrai que rapprocher ça d'une chenille vers un papillon, c'est tout à fait correct, je pense.
Voilà, super. On va écouter une deuxième pause musicale, un autre titre que tu as choisi.
qui est Massimas de trois artistes que sont DJ Gigola, Kev Coco et Pera In Munda. C'est en fait le morceau que j'ai écouté juste après ma première injection de testostérone, et c'était le moment où je me suis senti tellement libre en fait, de me dire waouh, je l'ai fait, en fait cette décision qui n'appartient qu'à moi, qui est quelque chose vraiment de très personnel, que je ne m'autorisais pas forcément parce qu'il fallait que je sois quelque chose de plaisant et d'agréable avant tout pour les autres, avant de l'être pour moi. C'était la première fois que j'étais entièrement à moi et que je faisais quelque chose pour moi et un choix pour moi. Et d'écouter cette musique-là juste après, c'était quelque chose que j'avais écouté peu de temps avant. Et j'écoute ce morceau et je me sens pris d'une immense liberté et d'un énorme poids qui s'enlève de mes épaules à ce moment-là. Voilà.
Et qu'est-ce que raconte cette chanson
C'est en espagnol. c'est une chanson d'amour. Le titre, c'est Encore et Encore. C'est quelque chose d'assez passionné. Je pense que c'était plus lié à une espèce de musique qui rebondit énormément. C'est une musique aussi d'électro, mais qui a beaucoup de groove, qui est très légère, qui a des grandes envolées et qui ne dure pas très longtemps, mais qui a ces envolées-là qui me parlaient énormément, je pense, à ce moment-là, de ce nouveau souffle.
Bah alors, on écoute un extrait.
Très bien.
Nous sommes toujours bien sur IDFM, nous retrouvons Samuel qui continue à nous parler de sa transition, qui lui a assuré cet équilibre et cet accord avec lui-même dont il avait toujours rêvé. C'est bien ça, Samuel ?
Ah oui,
voilà.
Tout à fait.
En même temps, tu as parlé de tes déplacements, tu as parlé de Montpellier par exemple,
oui,
mais aussi tu as fait un séjour en Suisse.
Tout à fait, dans la petite ville de Fribourg, dans le canton de Fribourg, donc, qui est entre Berne et Lausanne. Et ça a été un endroit très, très important pour moi parce que c'est un endroit où je commence à faire du drag pour la première fois, donc à me maquiller pour aller en soirée en fait, et adopter à la fois des caractéristiques très, très, très féminines mais très de manière très exubérante. Et pour autant de continuer à vivre dans ma vie de tous les jours en tant qu'homme. Et en fait, cet espace-là du drag me fait énormément de bien parce que c'est enfin une féminité qu'on n'impose pas et que je ne subis pas. C'est une féminité en fait de codes que j'aime bien, que ce soit les codes du maquillage, les codes vestimentaires. Il y a plein de choses très belles qui sont... et poussé à 100% un peu dans tout ça il y a le cabaret auquel je vais faire connaissance beaucoup plus tard, mais à ce moment-là il y a vraiment ces codes de la soirée, de la fête, du beaucoup, et en fait j'associe ça plus à de la fête que vraiment se dire ah bah on pourrait se dire mais en fait il sait pas où il en est, c'est un homme trans et en fait il va encore se maquiller. C'est plus loin que ça, c'est une pratique artistique. Le moment du maquillage est un moment très méditatif. C'est un peu comme peindre sur une toile, sauf que la toile, c'est nous. Donc, il y a vraiment ces moments de créativité. Donc, je commence à faire ça ensuite. Et je commence également à travailler dans un espace qui est très important pour moi, qui s'appelle Frisson, qui est une salle de concert. et donc dans laquelle je rencontre énormément de monde qui me pousse, qui sont des gens de la culture, et que tout devient très... Je me construis vraiment en tant comme adulte là-bas, en fait, à travers toutes ces expériences et tout cet entourage-là. Évidemment, je fais la connaissance de Transition Radio, une autre radio locale, dans laquelle j'expérimente pour la première fois. Et donc, toutes ces expérimentations, tous ces petits chemins de travers que je commençais à toucher, la Suisse, ça va vraiment être la concrétisation de plein de choses qui tiennent de choses artistiques. Voilà. Et je commence aussi à mixer un petit peu à ce moment-là.
Alors, tu peux nous en dire un peu plus sur tes émissions de radio ?
Alors, c'était une bimensuelle qui s'appelait La Cuisine. Et c'était en fait une émission dans laquelle je prenais une thématique qui m'importait et qui était aussi chère à mon invité. Donc, on a fait 3 numéros, un numéro qui a disparu des ondes pour... voilà, les soucis des enregistrements, et puis 2 autres numéros ensuite, qui parlaient respectivement de la jeunesse, de la santé mentale et de la famille, et tout tournait autour de jeux et d'interviews et d'interludes musicaux, et c'était du direct, donc exercice excessivement formateur. Je crois que je bredouille pas mal quand même, mais ça a été... que ce soit dans l'écriture, d'aller faire de la recherche et aussi de faire de la programmation musicale, ça a été vraiment une expérience qui prend beaucoup de temps, donc peut-être pas maintenant tout de suite, mais quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup refaire avec beaucoup de plaisir. La radio, c'est un espace où il y a à la fois la voix, donc en tant que fan de podcast, toujours fasciné par les voix à la radio, les voix un peu désincarnées, justement, à la fois très incarnées dans ce qu'elles sont en termes de voix, mais très désincarnées du fait qu'on ne s'imagine pas de corps, une fois de plus. Et puis pour la curiosité musicale aussi que ça va amener, la radio, je commence à écouter mes propres goûts musicaux se font donc par l'intermédiaire de mes cours de musique au collège, mais aussi parce qu'on écoute pas mal la radio encore au début des années 2010, et je façonne toute une bonne partie de mes goûts musicaux à travers la radio à ce moment-là. Donc pour moi, là, faire de la radio, c'est un peu l'amalgame de toutes ces choses-là qui me plaisent énormément.
Et bien alors, bienvenue sur une... Écoute, on t'offre une chronique si tu veux, on t'offre une émission, à voir.
Waouh.
Vaste projet.
Peut-être, on ne sait pas.
Voilà. Alors, on peut dire que ta transition s'est terminée, on peut dire, à l'âge de 22 ans à peu près, ou comment ? Comment est-ce qu'on sait que c'est terminé, en fait ?
Oh, c'est quelque chose d'infiniment intime, je pense. Moi, je considère que j'ai terminé dans tous les cheminements mentaux que j'ai pu avoir, dans toutes les méandres dans lesquelles j'ai pu être. C'est un espace de transition. Donc je suis une personne trans, mais je ne vais pas rester toute ma vie en transition. C'est pour ça qu'on peut parler plus de transitude, par exemple, qui est un état d'être une personne trans, mais on ne reste pas en transition toute sa vie. Moi, je pense que j'aurais terminé le moment où j'aurais vraiment terminé mes papiers, que ce soit quelque chose... voilà, que ma vie sociale soit un peu plus simple de manière institutionnelle. De moi à moi, je considère que j'ai terminé depuis au moins une année, quoi.
Ok, on va marquer une troisième pause musicale. Alors, Let It Happen.
Oui, tout à fait, de Tame Impala, qui est issu de l'album Currents, qui est sorti en 2015. Et c'est un artiste qui est très important pour moi, dont j'écoute tous les albums avec plaisir. Et en fait, Let It Happen, c'est justement un morceau qui parle de se laisser aller, de laisser les choses arriver. Même quand on ne se sent pas prêt, peut-être qu'on était prêt depuis le début. C'est toutes les dernières paroles de ce morceau. Et je trouvais, même si... c'est un des morceaux les plus connus de l'artiste, je le trouvais fort à propos dans ce cas-là, en plus d'être un morceau que je connais depuis très longtemps et qui est un peu réconfortant pour moi.
On écoute. sommes toujours bien sur IDFM. On retrouve Samuel qui continue à nous parler de sa transition de genre, hein, qui lui a assuré cet équilibre et cet accord avec lui-même. Alors Samuel, tu disais tout à l'heure hors micro qu'en fait, certaines personnes te considèrent comme déjà en transition avant que toi-même tu y songes vraiment.
Oui, parce que on va poser beaucoup d'étiquettes qui sont pas forcément les bonnes en premier. Moi, je sais que j'ai quand même souffert de ce truc du garçon manqué, de la lesbienne, dit dans des termes absolument affreux, hein, on est d'accord. Et en fait, pour moi, pour en parler même avec des personnes qui faisaient leur coming out de sexualité, leur coming out lesbien, leur coming out gay, c'est souvent notre entourage le comprend, et surtout à l'école, qui est quand même l'espace de sociabilisation dans lequel on est le plus souvent à cet âge-là. C'est là où nos pères vont justement décider de savoir avec qui va faire partie des pères et qui ne le sera pas. Et finalement, le tri se fait dans ces petits écarts qu'on va faire dans cette manière de ne pas faire comme les autres, qui va être très vite jugé, très vite remarqué. Et moi, c'est passé par là, par ce tempérament qui n'était pas très accepté chez les filles et qui était non plus pas forcément très accepté chez les jeunes gars à l'époque. C'était une espèce d'entre-deux où on ne sait pas où nous mettre avec notre genre. Du coup, on va faire des blagues dessus, mais par méconnaissance, beaucoup. Je rêve d'un monde où on comprend ce que sont les jeunes LGBT. Que ce soit ok, d'accord, il aime les garçons, elle aime les filles, et puis en fait il se trouve que c'est une jeune fille, ou il se trouve que c'est un jeune homme, ou il se trouve que c'est une personne non binaire, et on va lui laisser faire sa vie tranquillement. Et je rêve un peu de ça, au lieu de ces punitions sociales qu'on nous accorde très vite, au lieu de nous accorder une place sociale pour nous, une place qui est certes peut-être encore singulière, mais qui existe, quoi.
Alors, je dirais, dernière étape de ta situation actuelle, ce que je pourrais appeler le cocktail de la sérénité.
J'ai beaucoup aimé le nom de cette partie.
Voilà, alors cocktail, oui, pourquoi ?
Car je suis barman dans un bar inclusif à côté du Grand Rex qui s'appelle le Barlone. C'est un bar qui fait du cabaret, qui fait du karaoké, qui fait des brunchs aussi, où on voit beaucoup de drag queen, de drag king, aussi de créatures. Nous sommes aussi au sein du bar une ribambelle à être nous-mêmes des drags, au service derrière le bar. Et c'est un endroit que je trouve très important. Ça fait un an que j'y suis maintenant. Et c'est un endroit que je trouve très important parce que justement, il offre l'espace pour expérimenter, pour créer des nouveaux formats. Par exemple, on a fait au début du mois une galette des rois avec des drag kings. Donc, ça faisait la galette des kings. Tout le monde était très amusé du jeu, non ? Mais pour autant, ça reste une espèce d'un peu d'endroit un peu derrière le bar, se cache un endroit très culturel. Moi, c'est là où je peux continuer d'apprendre à mixer, où je peux continuer de constituer, de composer mon drag. Donc, c'est vraiment un chouette lieu, une espèce de maison, là où beaucoup... il y a tout ce truc de la maison chez les personnes LGBT, de où est-ce qu'on trouve sa place, où est-ce qu'on se sent à la maison. Ce qui peut être très compliqué quand on est rejeté, ou même sans être rejeté, de trouver une place dans des milieux beaucoup plus normatifs que nos identités. Et je trouve que ce bar-là a été vraiment un très gros changement dans ma vie, parce que justement, il me permet de grandir, de continuer de grandir, et de continuer de grandir comme je suis, en fait, sans essayer de me remettre dans des clous, dans une manière spécifique d'être comme ci ou d'être comme ça. Donc un grand espace de liberté et puis de franche camaraderie aussi, de trouver, de faire équipe aussi très important avec, pour le coup, ses pairs. Voilà, c'est un condensé un peu de créativité, de sociabilité et de quand même de sécurité de travailler là-bas.
En même temps, vous menez des campagnes pour la santé, disons, des gens qui viennent vous voir. Par exemple, j'ai vu, quand j'y suis allé, des affiches mettant en garde contre la drogue, un usage compliqué avec des numéros d'appel, des campagnes sur le chemsex, comme on dit, tout ça. Donc, vous jouez aussi un rôle pédagogique, finalement
Oui, totalement. Nous sommes un lieu de consommation d'alcool. Donc, à partir de ce moment-là, on fait en sorte que de ne pas punir. Je pense qu'on croit assez tous et toutes dans ce bar-là à la réduction des risques, qui est cette discipline de ne pas être dans un versant punitif et répressif de l'usage des drogues, mais au contraire, d'accompagner, de se dire on va être dans un bar, donc forcément il y aura de la consommation d'alcool et peut-être d'autres drogues. Le principe, c'est pas de punir ou quoi que ce soit, c'est de réfléchir à comment on fait pour passer ensemble une bonne soirée, pour pas qu'il y ait de débordement, mais pas forcément de bagarre ou quoi que ce soit, mais que personne ne se sente mal, que tout le monde, avec ses problèmes, arrive à quand même trouver un endroit de sociabilité dans lequel il peut se sentir à l'aise et savoir que dans tous les cas, on peut parler de soucis tels que les drogues, tels que l'alcool. Je pense que c'est un endroit aussi où on peut tout à fait prendre ce temps-là pour parler et même avec l'équipe, je pense qu'il n'y aurait jamais de problème, quoi.
Alors Samuel, notre deuxième émission se termine. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeune fille que tu étais il y a encore une dizaine d'années ?
Oh, est-ce que déjà je vais parler de jeune fille ? Je pense que je vais parler à l'enfant, tout simplement. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais quelque chose qu'on m'a reproché en mal venant d'une horrible personne, mais cette fois-ci, j'en ferai quelque chose de plus constructif. C'est de ne jamais, ça va être bête à dire, mais de ne jamais abandonner, en fait, de toujours se relever malgré les affres de la vie, mais de toujours se donner une seconde chance à soi. De toujours continuer, parce que je suis passé par des endroits où je n'avais plus d'envie de vivre. Et je trouve que c'est important de, en tout cas, si je devais parler à la personne que j'étais il y a 10 ans, de lui dire qu'il ne faut pas abandonner et qu'il faut continuer un pas après l'autre. Tout ne se fera pas en un jour, mais de continuer et ne pas abandonner. Très important.
Voilà, merci. Un immense merci, Samuel, pour cette belle leçon de vie.
Merci à
voilà.
toi.
Voilà. Et puis, un podcast à retrouver, bien sûr, sur la page d'IDFM. Et Samuel, la porte d'IDFM, justement, t'es ouverte.
Waouh.
Si tu as envie de faire des chroniques de temps en temps, ça serait super.
Ce serait incroyable.
Voilà. Donc, la balle est dans ton camp.
Waouh. Merci.
Voilà, merci encore à Marine, notre illustratrice et chroniqueuse, freelance et écologique, qui, comme à chaque enregistrement, a croqué notre invité, aujourd'hui Samuel, des portraits que l'on retrouve sur la page de nos podcasts. Et moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte sur IDFM, évidemment. Et je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.